Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo.
Et je suis Marine Stizy, bienvenue dans le 12e épisode.
La vérité se cache-t-elle dans les bouquins? Peut-on découvrir le monde à travers les livres?
Pour ce nouvel épisode de La Vagabonde, parlons des nouveautés de la rentrée de janvier. Cela fera bientôt presque un an que le monde n'est plus vraiment celui que nous connaissions. Depuis un an, nos vies oscillent entre le presque pareil et le drastiquement différent. Dans ce climat toujours plus anxiogène, les théâtres et les musées sont fermés depuis plus de 100 jours maintenant. La culture et tous ses biens non essentiels, pour reprendre la formule consacrée par l'exécutif mais que nous ne validons guère, nous manquent. Les livres, heureusement, sont toujours là. Les librairies sont ouvertes, elles, et elles deviennent à cet égard l'un des seuls espaces de respiration qu'il nous reste. Les librairies sont ouvertes et janvier a eu lieu, sa rentrée avec. Je l'aime toujours bien, moi, cette rentrée de janvier. J'aime le froid qui va avec, lire sous la couette les nouveautés du début d'année, me refaire un thé quand le premier est terminé. Et parce que certaines de ces lectures nous ont particulièrement touchées, nous avions envie de vous les partager. Alors dans cet épisode, nous allons vous parler de La nuit infinie des mers de Virginie Noire.
En cabané de Gabriel Filto Shiba.
Les grandes occasions d'Alexandra Matine.
Et Les vilaines de Camila Sosaviada.
Le premier livre dont j'aimerais parler est le deuxième roman de Virginie Noire. Il s'appelle La nuit infinie des mers et c'est un livre qui m'a énormément touchée, que j'ai trouvé extrêmement percutant et saisissant. Comme son premier roman, Le corps d'après, il a été publié aux éditions François Bourin, maison qui deviendra à partir du mois de mars Les Pérégrines. On parlait dans La Vagabonde, c'était obligatoire. Mais surtout, il explore différemment, mais tout de même, les méandres de la maternité, sans phare, sans état d'âme, de manière parfois très crue, très brutale, mais avec beaucoup de sincérité. Elle ne recule devant aucune vérité, ce qui rend la lecture très intense. Pour raconter un peu ma vie, mais bon, c'est notre podcast, on y fait très clairement ce qu'on veut. J'ai lu ce livre alors que je venais tout juste d'accoucher.
Mais c'est pas vrai.
Si.
Mais non, Marine, félicitations.
Merci. Mais voilà, donc moi j'ai lu ce livre, je venais tout juste d'accoucher. J'ai lu les deux romans d'ailleurs, coup sur coup. Ma fille n'avait pas encore un mois. Oui, parce que c'est une fille.
Ah, c'est pas...
Oui, c'est une fille.
Ah, je suis ravie de l'apprendre.
En fait, moi, j'ai été complètement bouleversée, extrêmement touchée. Et ça a été, en fait, probablement l'une des expériences de lecture les plus intenses de ma vie, en réalité. J'étais encore un peu sous le choc de mon accouchement, des premières semaines avec ma fille. Et ces deux livres-là ont trouvé une résonance, évidemment, enfin, très, très forte en moi. Pour entrer dans les détails, donc, Le corps d'après, publié en 2019, transportait le lecteur au plus près d'une femme enceinte de son premier enfant et donnant la vie. Le lecteur ou lectrice... faisait l'expérience avec l'autrice des maux de son corps, des difficultés, des sensations que peut vivre une femme enceinte et de ses multiples questionnements. Puis, la femme devient la mère, le corps donne la vie. Le récit devient alors celui d'une mère face à la tâche immense, gigantesque, que peut représenter la réappropriation de son corps et notamment de sa sexualité. C'est un roman qui parfois est très charnel et très sensuel. Dans La nuit infinie des mers, avant toute chose, la plume de Virginie Noire est toujours aussi belle, aussi poétique, aussi forte. Elle a un don fabuleux pour trouver la formule parfaite, avec toujours énormément de musicalité. C'est extrêmement beau à lire, c'est un plaisir juste dans la langue avant que ça le soit dans le texte. Et donc dans ce roman, la mère, qui ne porte pas de nom, est enceinte de son deuxième enfant quand son compagnon quitte le foyer familial, la laissant seule face à sa première fille et au silence assourdissant de la solitude et de l'absence. Si le roman n'est pas à proprement parler une suite au corps d'après, Virginie Noire elle-même me l'a confirmé à l'occasion d'un entretien que nous avons eu ensemble, ce deuxième récit peut aisément être considéré comme un continuum dans l'expérience maternelle. Elle a parlé du devenir mère d'abord et du être mère ensuite. Mais ici, l'expérience de mère est extrêmement difficile. La vie, j'ai presque envie de dire dans son ensemble, devient une bataille contre la fatigue, contre le temps qui manque, contre la dureté invisible aux yeux de la société, qu'elle a vie avec deux enfants en bas âge dont il faut s'occuper. Alors Virginie Noire met des mots, de la poésie, sur le quotidien d'une femme qu'un homme quitte, une femme qui doit alors assumer seule tous les rôles, donner le bain, donner le sein, protéger, cajoler, nourrir, consoler, endormir, et recommencer le lendemain, plusieurs fois par jour, tous les jours de la semaine. Il y a évidemment une intention de rendre visible l'intime, le dénoncer aussi d'une certaine manière, pointer du doigt, voilà ce que vivent les femmes seules. Donc voilà, c'est extrêmement fort, car en même temps, il y a évidemment énormément d'amour. D'ailleurs, en réalité, l'amour est partout, dans les nuits blanches, dans les douleurs corporelles, dans tous les sacrifices que cette mère fait pour le bien-être de ses enfants, comme l'ont fait tant de mères avant elle. D'où l'absence d'identité, de prénom. Cette mère pourrait en fait en être une autre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'universel dans cet oubli de soi que remonte un peu à la nuit des temps. Mais par contre, avant de terminer, je pense pouvoir affirmer qu'être mère n'est pas nécessaire pour savourer ce livre. Bien au contraire, je pense que la beauté prime un peu sur le reste.
Alors, on va changer de thème avec cette deuxième sélection de cet épisode. Je vais vous parler de Encabané de Gabriel Filtoshiba, qui est paru chez Le Mot et le Reste. Tout d'abord, Gabriel Filtoshiba est québécoise et traductrice de profession. Et en fait, par rejet de la société dans laquelle elle vit, elle décide un beau jour de tout plaquer, Montréal, son job, son appart, pour aller passer l'hiver dans le Kamouraska. Et attention, on parle bien d'un hiver québécois, pas d'un petit hiver à la française avec trois flocons de rien du tout. C'est donc une décision radicale que l'autrice décide de raconter dans ce roman, qui est, on pourrait dire, une auto-fiction romancée. Son récit se réclame d'une influence à la Sorau, qu'elle va d'ailleurs citer, en nous dévoilant sa totale immersion en pleine nature, par moins 30, dans une cabane en bois, dans une province totalement reculée du Québec.
Pas du tout extrême.
Pas du tout. C'est pas du tout radical. Au début, on se dit, tiens, elle va dans la campagne, c'est sympa, elle va couper du bois, c'est chouette. Puis après, on se dit, non, attends, c'est dans le Québec, il y a des températures incroyables, et elle est toute seule.
Bon, bref. Il y a des ours.
Et tu crois pas si bien dire. Et comme on s'en doute, c'est dans ces moments de dépassement physique, mental, que l'écriture est salvatrice, bien sûr, et permet d'agencer ses pensées. Et donc Gabrielle, l'autrice, qui s'appelle en fait Anouk dans le livre, trouve un refuge dans son journal intime, et ses carnets, en fait, sont un rendez-vous avec elle-même qu'elle fixe chaque soir, afin d'échapper, d'une part, à la folie de la solitude, et aussi à la peur, un peu toute bête, entre guillemets, j'ai envie de dire, de mourir d'hypothermie, qui est une peur, qui est un risque qui est bien réel, finalement. Et donc, ce journal intime nous décrit donc les rudes journées à pelleter la neige, à découper la glace du lac pour y trouver de l'eau liquide, c'est survivor, à échapper aux coyotes, justement... Et aussi à enlacer des arbres, parce qu'il y a des moments de communion totale avec la nature, et ces moments-là succèdent à ceux beaucoup plus douloureux d'une difficile adaptation d'une citadine à la vie en pleine forêt.
Je crois qu'on a déjà parlé de faire des câlins à des arbres dans un des épisodes de La Vagabonde.
Ça me disait quelque chose.
Voilà, c'est redondant, vous devez toujours de faire des câlins à des arbres, vous allez nous prendre pour des meufs chelous.
Mais... assez envieuse, mais justement... On va parler de cette confrontation, lire quelque chose qui se passe à la campagne tout en étant dans un tout petit appart parisien. Enfin voilà, ça a quand même son poids. Et d'ailleurs, Anouk est déjà sensibilisée à ce monde du vivant. Elle mentionne son passé de militante écologiste. Donc, elle est déjà bien sensibilisée à tout ça, mais c'est pas pour autant que c'est plus facile pour elle. Son rejet du confort, des crédits immobiliers, de la société de consommation, de la vacuité de la vie en ville ne l'ont pas plus armée qu'une autre à affronter un hiver rigoureux en toute solitude. Et c'est justement la clé de cette histoire, puisque c'est au cours de cette expérience qu'on a presque envie de qualifier de métaphysique, qu'Anouk se révèle à elle-même et nous confesse ainsi être passée à l'âge adulte après une journée particulièrement éprouvante. L'aspect témoignage de ce journal est bousculé quand débarque à sa porte un inconnu. Et là, je vous en dis pas plus, mais cette intrusion met un petit peu de sel et de fiction dans ce récit très introspectif. Car d'ailleurs, au tout début, je vous l'avoue, on craint peut-être de pas se plonger assez vite dans cette histoire, mais en fait, on finit par être complètement happé par son quotidien, qui est déjà si éloigné du nôtre, et qui est relaté aussi à la fois avec passion, avec un peu d'humour. Bref, on accroche. Et bien sûr, plus que d'assister à un challenge personnel, l'autrice nous invite... aussi, nous, en tant que lecteurs, lectrices, à élargir notre regard sur des thèmes beaucoup plus universels, auxquels on s'attend un peu, bien sûr, vu le thème du livre, mais qui n'en sont pas moins primordiaux. La place de la nature dans notre vie d'aujourd'hui, la nécessité urgente de la protéger. Elle pose aussi, comme ça, en passant, une petite réflexion pour qui veut bien l'entendre, une réflexion sous la forme d'une question, je dirais. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour sauver notre planète? Quels sacrifices devons-nous faire pour mettre l'écologie au premier plan? Quelles formes de radicalité sont possibles et atteignables et comment? Et en fait, voilà, c'est un livre qui m'a fait voyager pour de nombreuses raisons. Le décor, bien sûr, pour commencer. Un peu de neige, d'animaux de la forêt, des grands espaces. Voilà, c'est ce que je disais plus tôt. Ça fait pas de mal quand on reçoit ça depuis son petit 40 mètres carrés dans le 9-3. Et l'autrice est aussi une fervente défenseure de la langue et de la culture littéraire québécoise. Et son texte est truffé de mots que nous n'entendons pas en France. Et c'est assez savoureux. Elle fait aussi de nombreuses références à des auteurs québécoises qui nous rappellent au passage que notre culture est peut-être trop limitée aux œuvres franco-françaises et que ça nous ferait pas de mal de temps en temps de penser plutôt comme culture francophone, disons, et de se construire aussi des références qui viennent du Québec et d'ailleurs.
Existe-t-il relations plus complexes que les relations familiales ? Rien n'est jamais vraiment simple quand il s'agit de famille. Quelquefois, nous serions d'ailleurs tentés de penser que la vulnérabilité des rapports font loi. En quelques mots, une famille parfaitement saine, sans secret, sans infidélité, sans rancœur, cela n'existe pas. C'est en partant de ce constat qu'Alexandra Matine a trouvé l'inspiration pour écrire Les Grandes Occasions, un premier roman paru en janvier aux Avril, une collection toute neuve de littérature française contemporaine au sein du groupe Delcourt, menée par Sandrine Thévenet et Lola Nicole. Les Grandes Occasions en inaugure les parutions, et la formule est facile, mais on peut le dire tout de même, ça commence fort. Alors, la fragilité des liens familiaux, voici ce qui pourrait donc décrire en quelques mots l'essence du roman d'Alexandra Matine. Esther, une mère de famille de 4 enfants, a décidé d'organiser un déjeuner où toute la famille serait réunie, les parents, les enfants, les petits-enfants. Cela fait des années que ce n'est pas arrivé, des années qu'ils n'ont pas tous été ensemble autour d'une table à discuter simplement. Le père, lui, a renoncé depuis longtemps à espérer un moment de communion comme celui-là, mais pas Esther. Ce déjeuner a une importance colossale pour elle, elle le prépare avec énormément de minutie et tout doit être parfait. Et si les choses ne se passent pas comme elle l'aurait rêvé, c'est l'occasion pour elle de tirer les fils de ses souvenirs. Sa rencontre avec Reza et leur voyage en Iran pour être présentée à son père, le départ du foyer déchirant de sa dernière fille ou encore les difficultés insurmontables entre ses deux fils si différents l'un de l'autre. Chaque souvenir étant comme une pierre explicative à l'explosion progressive de leur famille, déjà fragilisée par la personnalité écrasante du père de famille, autant que par l'effacement total d'Esther. Esther, qui fut en fait une mère cachée derrière son mari, incapable de prendre position contre lui, incapable de dire à haute voix ce qu'elle ressent pour ses enfants, comme elle les aime, comme ils lui manquent, incapable de s'excuser pour ce qu'elle n'a pas fait, incapable de se pardonner à elle-même sa manière répétée de n'avoir jamais su s'imposer entre ses enfants et son mari, qui est un père colérique, exigeant, parfois ingrat et très orgueilleux, et qui n'a Dieu que pour son premier fils. Toute sa vie, Esther n'a pas osé. Avec ses petits-enfants, elle n'osera pas dire qu'aller les chercher à l'école lui ferait plaisir. À la place, elle préfère dire que cela ne la dérange pas. Elle dit que « avouer le plaisir, c'est permettre aux autres qu'ils vous le retirent ». Mais en réalité, c'est aussi que ses enfants lui refusent ce qu'elle n'a pas su construire avec eux, un foyer heureux et des souvenirs joyeux. Les Grandes Occasions est un roman extrêmement cruel dans ce qu'il a d'extrêmement sincère et vrai. Il est cruel pour Esther, cruel pour ses enfants. Ce roman est aussi puissant car il renferme énormément de vérité. Il y a de la douleur intolérable de savoir que nous sommes tous concernés, en fait, chacun à notre manière par ces relations familiales compliquées, parfois extrêmement tristes et destructrices. C'est impossible, de lire ce livre sans réfléchir à sa propre famille, et ça rend l'expérience, pour le coup, très forte.
Oui, et quand on parle, on ne peut pas s'empêcher de penser faire un espèce de phénomène de miroir.
Penses à ta propre mère, tu penses à tes propres parents, enfin, c'est quelque chose de très fort. Donc voilà, moi, je ne peux que vraiment vous inciter à lire ce livre. On y trouve un peu de « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce dans cette énergie tragique du dernier repas familial. Bref, je conclurai avec cette citation qui résume, je crois, assez bien le livre et qui personnellement m'a brisé le cœur. « Le destin d'une mère, c'est de laisser partir ses enfants, de son ventre, de sa maison, de ses bras. Les douleurs de l'enfantement ne sont rien comparées à la douleur éternelle de la séparation. »
Nous allions toutes devenir des reines. C'est sur cette citation de Gabriela Mistral, écrivaine chilienne, que s'ouvre Les Vilaines, premier roman de Camila Sosa Villada, paru aux éditions Metelia en janvier dernier. Des reines, des vilaines, la confrontation de ces deux mots présage du choc qu'on a en lisant le roman. Camila Sosa Villada est née en 1982 à La Falda en Argentine. Les Vilaines, Las Malas en VO, je tente l'accent espagnol.
C'est bien réussi.
Bravo, merci. Et son premier roman, traduit de l'espagnol par Laura Acolba. Mais ce livre, c'est pas la première rencontre de l'autrice avec l'écriture, loin de là. Elle a fait de la chanson, du théâtre. Elle raconte d'ailleurs que c'est à partir du personnage d'une pièce qu'elle a jouée qu'elle a construit le personnage de la tante Encarna, qui est la pierre angulaire de cette histoire. Les Vilaines, en fait, c'est l'histoire des souvenirs d'une narratrice qu'on imagine être l'autrice elle-même. Elle nous emmène à Cordoba, en Argentine, il y a plusieurs années. Une groupe de femmes trans travaillent chaque nuit au parc Sarmiento. Elles sont soudées en communauté autour d'une figure protectrice, la tante Encarna, donc. La tante Encarna, c'est celle qui a tout vu, celle à qui on ne la fait pas. Elle est à la fois forte, folle, détestable et indispensable. C'est la matriarche de cette famille de femmes trans, travailleuses du sexe, qui viennent se réfugier des quatre coins de l'Argentine dans sa maison rose de Cordoba. Elle leur apprend à s'aimer elles-mêmes, à s'aimer les unes les autres, à sortir les griffes quand c'est nécessaire. Et il faut dire que quand on est trans et travailleuse du sexe, cela signifie forcément devoir sortir les griffes à un moment ou à un autre.
Et dans ce quotidien fait de violence et d'entraide, une nuit comme tant d'autres, la tante Encarna fait une découverte presque biblique. Un bébé abandonné dans les buissons où elle et ses compagnes ont l'habitude de se cacher pour échapper à la police. Et en fait, cet enfant est une révélation pour la communauté. La tante Encarna, mue par un irrépressible instinct, on le sent vraiment, l'adopte immédiatement. Les filles l'appellent « éclat des yeux » car il sent que cet enfant, par les yeux qu'il a, par ses yeux, révèle à toute la bonté de l'âme humaine. Et elles en ont bien besoin, d'ailleurs, dans leur vie de paria, de honte et de violence. Et c'est un miracle, un réel miracle, et elles se soudent autour de cette figure de douceur arrivée vraiment comme un don du ciel. Mais la peur finit par s'installer, car une transe et un enfant, c'est un péché aux yeux de la société, nous dit l'autrice. Et c'est une menace omniprésente qui commence à planer, en fait, sur la tante Encarna et l'enfant, à partir du moment où elle décide de le garder, de l'adopter. Et avec ce roman, en fait, Camila Sosa Villada aborde déjà la transidentité avec beaucoup de poésie, grâce à une histoire qui se lit presque comme un conte. Elle apporte des petites touches de réalisme magique, ce côté fantastique que l'on retrouve dans la littérature sud-américaine, que moi j'adore personnellement. Et comme ça, elle nous immerge vraiment dans un monde qui nous est par ailleurs inconnu, l'autre monde, l'underground, l'invisible. Elle raconte les corps, les coups, l'amour, la beauté, l'espoir dans ce conte de fées et conte d'ogres aussi, je dirais. Et quand on lit, d'ailleurs, on a des images, des sons en tête. Moi, j'avais vraiment l'impression que la narratrice était comme une actrice sortie tout droit d'un film d'Almodovar. Une voix profonde, pénétrée, sans pathos, qui raconte la violence et la beauté de la vie. J'avais vraiment ça à lire les lignes.
C'est ce
incroyable.
Que ça m'inspire quand t'en parles.
Quand j'en parle, ouais, mais forcément, les thèmes, ça fait écho. Mm. Et dans ma tête aussi, à la lecture de passage, j'avais des images d'icônes de l'art sacré, tu sais, un peu revisitées. Une Madone entourée d'or, de paillettes, avec le petit Jésus dans les bras, un halo de lumière dessus.
Un truc hyper
dessus.
Kitsch à la base Lurman.
Exactement. Et c'est d'ailleurs, la Madone, c'est la tante Encarna qu'on imagine comme ça, tenant dans ses bras l'enfant prophète, le petit prodige, quoi. Et d'ailleurs, cette figure de la tante Encarna est très intéressante. L'autrice raconte qu'elle vient d'une pièce qu'elle a jouée, une pièce qui reprenait le mythe de la Difunta Correa, figure très populaire en Argentine, à laquelle les Argentins vouent un véritable culte. Je me suis un peu attardée sur cette légende parce que ça m'a un peu intriguée. Et en fait, cette légende raconte l'histoire de Deolinda Correa qui, au 19e siècle en Argentine, part seule avec son bébé rejoindre son mari parti à la guerre. Attention, c'est une légende argentine, donc c'est pas très jouasse. Mais... et désespérant de retrouver son mari, soi-disant perdu en plein désert, se retrouve sans vivre, meurt de soif, adossé à son arbre, son enfant au sein. Son enfant aurait survécu. Et ce miracle élève donc la Difunta Correa au rang de sainte que l'on prie encore aujourd'hui, à qui, le long des routes en Argentine, on laisse des petits autels de bouteilles d'eau pour préserver de la soif.
C'est fou.
Non mais
c'est beau.
C'est à la fois beau et terrible, c'est ce que j'adore. Mais enfin, c'est quand même, c'est pas anodin comme histoire. Et justement, elle a pris ça, elle a pris cette espèce de mythe pour développer l'histoire de l'enfant que serait devenu l'enfant et ça évoque aussi des questions de parentalité en fait.
Du sacrifice.
Ouais. Puisqu'il est recueilli par une femme trans, donc mon Dieu, sacrilège, quoi. Qu'est-ce qui deviendrait cet enfant avec une femme trans? Et donc cette référence à un mythe, moi j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ces petites références à des mythes populaires, à la tradition chrétienne, les faire s'entrechoquer avec un quotidien hyper réaliste, j'ai trouvé ça très très fort. C'est donc parfois très cru, l'histoire que je viens de vous évoquer, elle est très crue, très dure, mais c'est à l'image du livre. Mais elle arrive à en faire quelque chose de magnifique. Donc moi, ça m'a bouleversée. Et d'ailleurs, au-delà du fait que ce soit bien sûr un texte très fort, très beau et très émouvant, c'est aussi très enrichissant de lire une histoire de cette manière-là, puisque je trouve que la transidentité n'apparaît pas beaucoup dans la littérature, et quand elle l'est abordée, habituellement disons, elle est plutôt abordée par le prisme politique, par des essais. Et là, ce livre change tout. Il n'est ni dans l'analyse, ni dans le militantisme. En fait, il touche par l'histoire qu'il raconte, point. Et c'est puissant et c'est presque universel, je dirais. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde.
Merci.
Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage. Et à Théophile Denis, toujours pour la musique. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. Salut.
Bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.